des polars et des notes.
Bonjour fidèles auditeurs de Des Polars et des Notes, ravi de vous retrouver sur Radio Évasion, frais et dispo, heureux d'attaquer une nouvelle année scolaire, de labeur ou de chômage. Bref, une année de galère, riche de promesses électorales qui vont nous faire croire que oui, mais non, rêvez pas quand même. En attendant, pour nous, c'est la rentrée littéraire et nous allons nous régaler avec un sommaire de dingo tout fou. Pierre-Yves a repris sa place au fond du studio, à dormir dans son fauteuil en poussant mollement les manettes d'une table de mix qui ne lui a rien demandé. Et vous retrouverez bien entendu, comme d'habitude, toutes les références des livres et des auteurs dont nous allons parler sur la page dédiée de l'émission dans le webzine 404. Le thème d'aujourd'hui, celui dans l'air du temps, c'est la manipulation mentale. Celle qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes pour le plus grand plaisir de ceux qui tirent les ficelles. La prise de contrôle de nos pauvres neurones sursollicités en permanence par les drogues, les images, les infos, les mensonges. Ouais, je sais, c'est parfois la même chose. Et le dénigrement systématique de l'autre. Vous êtes prêts ? Alors, prêt à quoi, me direz-vous ? Vous êtes prêts pour l'installation de la peur de Ruizink, qui est paru chez Agulo Fiction. Alors, l'installation de la peur, c'est une histoire un peu bizarre de deux agents qui se pointent chez une brave femme et elle les reçoit dans son appartement et ces deux agents sont là pour lui installer la peur. C'est un devoir patriotique, c'est demandé par le gouvernement. Avoir peur, c'est incontournable. Aussi, chaque foyer doit se plier à la décision. C'est, selon le gouvernement, la seule façon de sauvegarder la stabilité de la société. Ça peut paraître un peu déjanté, comme ça, mais réfléchissez à ce que font minute après minute les chaînes d'infos en continu dans votre salon. Songez à ceux qui les financent. Dans ce petit livre, tout y passe, les peurs enfantines, la peur des marchés qui sont si frileux, les guerres, les épidémies, l'étranger. C'est un récit formidable qui parle de notre vie tous les jours sous les dehors glaçants de l'absurde le plus absolu. Alors, il n'y a pas de musique, mais on va s'écouter Fear Factory, l'usine à peur. C'est juste ce qu'il nous faut, c'est Soul Hacker.
Burned and defenseless, against the relentless, hacking machine.
Un thriller bien flippant. Maintenant, un de ceux où on retrouve nos braves amis de la CIA. Dès qu'il y a un coup vraiment pourri quelque part, l'agence n'est jamais très loin. Ici, elle est au cœur de l'histoire. Cette histoire, c'est Le Cri. Et son auteur, c'est Nicolas Beuglet. Le Cri qui vient de sortir chez XO Éditions. Et Nicolas est avec nous pour en parler. Bonjour Nicolas.
Bonjour Patrick.
Alors, Le Cri débute très très fort par la mort particulièrement bizarre d'un étrange patient dans un hôpital psy bien glauque d'Oslo. Vous nous racontez un peu ça ?
En fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, ça commence à Oslo, en Norvège. Sarah Geringen, c'est une inspectrice de police qui vient de subir une grosse rupture, on va dire amoureuse, et puis elle reçoit un appel qui lui demande de venir à l'hôpital de Gaustad, qui existe réellement à Oslo, et quand elle se rend sur place, on lui dit qu'il y a un patient de l'hôpital qui est mort, on ne sait pas trop, étranglé a priori, mais bon, c'est étrange, et ce qui est vraiment bizarre, c'est que sur le front de cet homme, il y a une cicatrice en forme de 488. Ce qui est deuxièmement bizarre, c'est que le personnel de l'hôpital est très mal à l'aise avec l'identité de cet homme, il est là depuis 30 ans, mais personne ne peut vraiment dire qui il est. Et là où Sarah commence à se dire qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est quand elle découvre que le corps a été déplacé de l'endroit où il est décédé. Et l'endroit où il est décédé, c'était une cellule qui est recouverte de sigles et de dessins qui sont a priori indéchiffrables.
Et là, ouais, débute une terrible course contre la montre qui va mener vos héros à travers le monde, de Oslo à Paris, en Angleterre, aux États-Unis, sur une île perdue de l'Atlantique.
Oui, alors tout ça, c'est pas pour faire voyager spécialement le lecteur. Ça a été vraiment moi, quand j'ai déroulé le fil de l'enquête, ça m'a amené dans ces différents endroits. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, au départ, ça a été inspiré par des expériences qui ont été menées par la CIA entre les années 50 et 70, connues sous le nom de projet MK Ultra. MK, c'est pour Mind Control, qui étaient des expériences soi-disant pour mieux contrôler l'esprit des hommes, tout ça dans une époque de guerre froide. Bien évidemment, c'est allé beaucoup plus loin que tout ça, et puis ça a été fait sur des personnes non consentantes, ça a été fait à coups de torture, ça a été fait à coups de drogue, ça a été fait aussi sur des enfants, bon, tout ça a été absolument épouvantable, sauf que ça a eu lieu vraiment, c'est pas du tout une histoire inventée. Il y a eu une commission d'enquête qui a été nommée sous Kennedy à l'époque pour enquêter sur cette histoire-là, après une révélation dans le New York Times en 1974, et tout le monde, tous les gens qui ont participé, en tout cas la plupart ont témoigné, ils disent oui, on l'a fait, oui, on l'a fait sur des centaines de personnes, oui, on en a tué, oui, on en a traumatisé, voilà. Et ce qui se passe, c'est que il y a eu une période où les gens qui avaient fait ça ont été mis au courant que la justice allait s'en mêler, et beaucoup de dossiers ont été effacés ou ont été détruits. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ces dossiers détruits, qu'est-ce qu'on avait pu inventer de pire que ce qu'on savait. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du projet 488, et qui va nous mener effectivement un peu partout dans le monde, parce que la CIA a produit ses expériences, pas seulement aux États-Unis, mais dans beaucoup de parties du monde.
Mais en même temps, Sarah, elle va être accompagnée par les faits de l'enquête par un ex-reporter de guerre qui s'appelle Christopher. Et ce que je voulais lui demander, c'est j'ai l'impression que c'est un peu une sorte de voyage initiatique qu'ils vont entreprendre et qu'à chaque étape, apporte un lot de pertes de plus ou moins cruelles, ça dépend des étapes, mais qui vont un peu les rapprocher d'eux-mêmes.
Ouais, parce que Sarah, et comme je le disais tout à l'heure, quand démarre l'histoire, elle pense être encore très amoureuse avec son mari, tout va bien, ils essaient d'avoir un enfant, et puis là, elle se prend une énorme claque dans la figure. Ça, c'est vraiment la première page du livre. Donc, elle se demande même si elle va pouvoir avoir la force de tenir et de mener cette enquête. Finalement, elle s'y accroche parce que c'est sa bouée de sauvetage. Et donc, déjà, c'est une personne qui, dans son métier, est froide, distante, pas parce que c'est cool ou parce que ça fait bien, c'est juste parce qu'elle part du principe que elle n'est pas là pour rigoler, elle n'est pas là pour faire des plaisanteries ou pour détendre ou quoi que ce soit, elle est là pour tout donner aux victimes. Donc, elle est un peu redoutée des gens, de ses camarades, voir cette personnalité-là. Bon, puis là, en plus, compte tenu de ce qui lui arrive, elle se referme encore. Et Christopher, lui, il va être lié à l'enquête de façon très proche. Il vient de vivre un drame parce que son frère est décédé dans un accident de voiture et son frère a laissé un orphelin, parce que à la fin du frère est mort aussi, un petit garçon, il s'appelle Simon. Et Christopher, qui était un garçon qui vivait comme un célibataire, qui sortait beaucoup, etc., et ben, il va renoncer à tout ça pour adopter Simon. Et donc il va essayer d'être le meilleur père possible, sans savoir vraiment comment faire. Et donc c'est pas évident, il a du mal à gérer ça, il gère aussi un deuil. Et ces deux personnages-là vont se rencontrer. Ils vont avoir au début des a priori l'un sur l'autre. Lui, il va la trouver froide, distante, glaçante. Elle va trouver un peu beau parleur et autres. Et puis, comme vous le disiez justement, bah, au fur et à mesure de l'enquête, ils vont s'apprivoiser. Elle va être émue par l'héroïsme de cet homme, bah, qui, quand je dis héroïque, parce qu'il va tout faire pour essayer de retrouver ce petit enfant, et puis parce qu'il a déjà tout fait dans sa vie pour essayer de l'élever bien. Et Christopher, à son tour, lui, va être touché par cette femme qui, évidemment, est froide, mais qui est en fait une très 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 belle personne derrière tout ça.
Mais ils explorent tous les deux leur fragilité, et en même temps ça les renforce.
Oui, mais j'ai voulu que ça soit parti de touche. Après, c'est au lecteur de voir un peu ce qui se passe et de le ressentir. Mais c'est vrai que Sarah est une femme qui est hyper froide, hyper forte. Et au début, Christopher se dit ouais, « je peux compter sur elle ». Mais moi, je vous le dis, je l'ai écrit comme j'aurais aimé que ce soit une fille comme ça si un jour il m'arrive une histoire qui s'occupe de mon affaire. Et donc il se repose énormément sur elle. Et il y a un moment où, bien évidemment, ça va aller trop loin pour elle. Et elle a un peu des pieds d'argile aussi. Et elle va... Ça va craquer. Et à ce moment-là, Christopher, il va avoir les mots, le geste qui va faire que bah, ça va lui faire du bien à cette femme. Et ils vont se trouver. Et ils vont se trouver vraiment.
Et en même temps, vous allez beaucoup plus loin que la simple narration. C'est un thriller, d'accord. Vous allez plus loin que la simple narration d'un méchant criminel qui aligne les meurtres, etc. Il y a toute une part de votre roman qui est consacrée aux sciences ou des pseudo-sciences qui tentent de décrypter les grands secrets de l'humanité qui vont vraiment très très loin.
C'est vraiment le livre que j'aimerais lire, c'est-à-dire que moi j'ai pas les polars, j'en lis très peu souvent parce que j'ai besoin d'un fond qui aille plus loin qu'une simple enquête, effectivement. Au début du livre, on pose une grande question qui tourne autour de l'origine de la vie, de l'âme, est-ce qu'il y en a une, où est-ce qu'elle est avant, où est-ce qu'elle va quelque part après. Et je voulais qu'à la fin du livre, il y ait une réponse. Je n'aime pas les bouquins qui se terminent par trouver la réponse en vous ou je ne sais pas quoi. Donc il y a une réponse, c'est la bonne, mais il y a une vraie réponse et qui est fondée sur des recherches que j'ai faites pendant 2 ans, 3 ans, scientifiques, on va dire métaphysiques aussi. Et je me suis moi-même posé la question, comme tout le monde, qu'est-ce qu'il y a après tout ça, après notre vie. Et je me suis dit à un moment, est-ce qu'on peut pas trouver quand même des réponses dans ce qu'on a aujourd'hui comme matériel scientifique. Et en creusant, on trouve des choses très étranges. Voilà. Donc je ne dis pas que c'est la vérité, bien évidemment, mais c'est vraiment troublant ce qu'on trouve.
C'est une explication, toujours.
Une proposition.
Mais il y a une ambiguïté qui m'a paru intéressante, c'est l'ambiguïté entre le fou du départ, celui qui meurt, on ne sait pas trop comment, qui est enfermé avec les autres fous dans un hôpital psy, et les vrais dingues. Les vrais dingues, ils sont dehors, et c'est les fous de Dieu qui sont prêts à tout pour confirmer ou imposer leur dogme.
Parce que je pense que dès lors que... Parce que le fou qui est dans l'hôpital, il sait qu'il y a un problème. Le vrai fou, c'est celui qui ne sait pas qu'il est fou. Et le vrai fou, c'est celui qui pense qu'il a raison contre tous. Et la religion, mais d'autres choses aussi, encourage ce genre de pensée parce que elle a tendance à faire en sorte que l'homme accepte de se soumettre à une pensée qui n'est pas la sienne. Et moi, c'est ça qui me fait peur dans la vie. C'est ce qui me fait le plus peur, c'est quand les gens ne pensent plus par eux-mêmes. Donc j'ai rien contre la religion en soi, et d'ailleurs dans le livre, la mère de Christopher est une femme qui est croyante et qui fait des très belles choses dans sa vie quotidienne. Mais dès lors que on remet entre les mains de quelqu'un d'autre notre destin, ça j'aime pas. Dès lors qu'une idée devient une idéologie, ou dès lors que le comme c'est dit dans le livre, le désir de croire est plus important que le besoin de liberté, tout ça, ça me fait très peur. Et les gens, effectivement, qui sont entre guillemets les méchants dans le livre, portent très haut cette philosophie de la, on va dire, de la soumission.
Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Beuglet. Je rappelle le titre de votre ouvrage, c'est Le Cri, et on peut le trouver chez XO Éditions. On va s'écouter les Doors, parce qu'ils sont présents dans votre bouquin, Les Portes de la Perception, évidemment. C'est Waiting for the Sun. Merci beaucoup, bon après-midi.
Merci, au revoir.
Un petit retour en arrière, enfin quand je dis un petit, c'est un grand, parce qu'on est parti 70 ans en arrière, sous l'occupation allemande, avec l'affaire Léon Sadorski, qui est paru chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Et son auteur, Romain Slocombe, est avec nous pour nous accompagner dans ce voyage vers un passé douloureux. Bonjour Romain.
Bonjour.
Alors félicitations tout d'abord, parce que j'ai lu que votre livre était retenu sur la liste des possibles Goncourt 2016.
Oui, tout à fait. Mais et plus intéressant que ça pour moi, c'est cette liste est automatiquement donnée aux lycéens pour le Goncourt des lycéens.
Que vous avez déjà eu.
Voilà, où j'ai déjà été en sélection, qui est basé, enfin qui a été créé, qui est basé à Rennes. Et donc je vais avoir le grand plaisir de refaire la tournée, de rencontrer les 1500 lycéens des 7 régions de France.
Ah ben ça c'est super parce que votre livre, il faut le diffuser dans les lycées. Donc l'affaire Léon Sadorski, nous sommes en avril 1942 et l'inspecteur principal adjoint des RG Léon Sadorski traque le juif, c'est son boulot.
Oui.
Il le fait bien d'ailleurs, il est même un petit peu zélé.
Et... Oui, il est physionomiste, il est très fier de ses talents de physionomiste, il reconnaît les juifs du premier coup.
Ah, il trafique même un peu les dossiers des fois.
Oui, il en rajoute, c'est-à-dire que il rajoute sur leur fiche d'arrestation, il rajoute communiste, membre de la Troisième Internationale, dangereux pour l'ordre public.
C'est pas mal.
Oui, et c'est pas gratuit parce qu'il est très conscient que ça aidera le malheureux à se retrouver en priorité sur les listes d'otages parce que les Allemands à cette époque. Hitler ayant dit que pour la vie d'un soldat allemand, 50 à 100 vies françaises étaient, étaient équivalentes. Donc il y a toujours tout de suite 20 otages fusillés quand il y a un attentat. Et puis si la police ne trouve pas le coupable, 15 jours après, il y a 20 otages de plus qui sont fusillés.
Ouais, mais en fait, c'est aussi parce que ça aide surtout Léon, parce qu'il compte bien profiter de ces bons dossiers pour monter dans la hiérarchie.
Oui, comme tout fonctionnaire, il garde un œil sur le tableau d'avancement.
Et pourtant, il n'est pas collabo vraiment. Il est avant tout patriote.
Oui, parce que je voulais pas, comment dire, il y a beaucoup de clichés sur la collaboration et sur cette période de l'occupation. Et les écrivains ou les cinéastes ou scénaristes ont toujours tendance un peu à mettre d'un côté les bons, de l'autre les méchants. C'est-à-dire que soit le héros est résistant. Soit c'est un abominable nazi ou un abominable collaborateur. Et moi, je suis plutôt pour les personnages gris, en fait, en demi-teinte. Et les personnages entièrement mauvais, comme les personnages entièrement bons, n'existent pas, à mon avis. Et donc, j'ai voulu faire un portrait crédible, réaliste, d'un policier français sous l'occupation. Donc, Léon Sadorski n'aime pas les Allemands. Lui-même, c'est un ancien combattant volontaire à la fin de la guerre 14-18. Quand il avait 17 ans, il s'est engagé. Donc pour lui, c'est la France a été battue, humiliée, elle a perdu, il faut le reconnaître. Et depuis longtemps, c'est un fidèle du maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, etc. C'est un ancien combattant, un jeune ancien combattant typique, Sadorski, comme beaucoup de Français à l'époque. Et il pense que finalement, vu les circonstances, finalement, il faut une révolution nationale, il faut un homme fort au pouvoir, hein, il faut un soldat comme le maréchal Pétain. Et il pense que le maréchal Pétain, et comme lui-même à sa petite échelle, Sadorski, va biaiser, jouer avec les Allemands, en fait.
Et Sadorski, bon, il a un boulot considérable, il envoie plein de juifs à Drancy, il aide ses copains des sections spéciales à intervenir contre ce qu'ils appellent les terroristes, c'est-à-dire les résistants. Oui. Et pourtant, il est arrêté par la Gestapo qui l'envoie à prison à Berlin.
Oui, c'est une contradiction apparente. Le point de départ de mon roman est basé sur une histoire vraie, c'est-à-dire qu'il y a eu un inspecteur de son vrai nom, Louis Sadowski, qui était au RG à la 3e section, qui dirigeait le rayon juif, comme mon personnage le fait, et qui a été effectivement arrêté avec son ancien commissaire et envoyé 5 semaines en Allemagne. Et j'ai utilisé ça comme point de départ de mon récit. Et comme il a laissé aux archives nationales un rapport très circonstancié qu'il a fait à son retour de Berlin, où évidemment il ne peut pas dire tout, mais où il raconte beaucoup de détails, je me suis servi de ça comme base de mon roman. Et en fait, s'il a été arrêté, c'est parce que justement les Allemands en fait s'intéressaient beaucoup à leurs nationaux qui avaient été en France avant la guerre, c'est-à-dire qu'il y avait soit les réfugiés anti-nazis, soit les agents de la 5e colonne, et aussi des gens qui étaient à la fois l'un et l'autre, des agents doubles, et tous ces Allemands réfugiés en France ou envoyés en France étaient évidemment dans le collimateur des renseignements généraux, et Sadowski, à la fin des années 30, a surveillé, interrogé, utilisé comme informateur des gens qui venaient d'Allemagne ou de Pologne, et en particulier un certain Olpinski dans la réalité, que j'ai appelé Osnitski, un agent double, un type passé qui se fait passer pour un comte, un type extrêmement louche, mais rusé, et ce type ayant été arrêté par la Gestapo, la Gestapo en profite pour également interroger tous ceux qui l'ont bien connu, et au bout du compte, après avoir terrorisé Sadorski, leur but, c'est finalement d'en faire un agent à leur solde.
Mais votre roman, justement, est peuplé un petit peu de personnages comme ça, qui travaillent pour l'un, pour l'autre, pour un troisième. Ils savent à la limite même plus pour qui ils travaillent, et les agences qui les emploient ne savent même plus.
Oui, c'est tout à fait fascinant, et la Gestapo savait que Osnitski était un agent double, mais en même temps, ils se sont quand même servis, ce type mangeait à tous les râteliers. Moi, ça me fascine justement, le roman est assez glauque justement, en rapport avec cette période extrêmement angoissante, et c'est cette sorte de confusion entre les différentes tendances, les rôles des gens et leur position par rapport à la guerre, à la résistance ou au nazisme que j'ai voulu montrer dans une sorte de portrait finalement du Paris sous l'occupation.
Et en même temps, dans votre Paris, là, on s'amuse beaucoup, on va au cabaret, on écoute chanter, on va danser, et bon, il y a quelques bombardements anglais de temps en temps qui sont un petit peu des événements parasites, mais est-ce que c'est l'atmosphère réelle de ce qui se passait à Paris en avril 42? On a l'impression que la guerre, elle est un peu en demi-teinte.
Ben tout à fait, c'est-à-dire que j'ai lu énormément de récits de l'époque, de journaux intimes, examiné beaucoup de photographies aussi, et ça cause toujours une sorte de petit scandale quand on montre des photos riantes et gaies de l'occupation. Mais en fait, un peu comme toujours, en plus les Français ils aiment bien s'amuser, les Françaises aussi, et puis quelquefois il fait beau, hein, il pleut pas tous les jours, c'est pas tous les jours du brouillard, c'est pas toujours une atmosphère style comme dans L'Armée des Ombres, le très beau film de Melville. Dès qu'il fait beau, en plus les hivers ont été très durs, on se chauffait très très mal, les gens gelaient, en plus ils étaient pas très bien alimentés, ils se rattrapaient avec le marché noir et puis les colis de la campagne, mais dès qu'il faisait beau, c'était une sorte d'explosion de joie. On essayait justement de revivre le temps d'avant. Il y avait une sorte de Paris-plage avant la lettre, c'est-à-dire que les gens dépliaient leurs serviettes et se pêchaient ou se baignaient dans la Seine. Et la mode avait un rôle très très important. Et quand on voit justement la mode de l'année 42, d'ailleurs les textes de l'époque le disent, les femmes n'ont jamais été aussi belles, la mode n'a jamais été aussi extravagante, et Et même pour les Allemands, Paris, c'est une sorte de zone pour le repos du guerrier. Et Hitler a été assez malin. Il n'a pas du tout censuré ou empêché quoi que ce soit dans le côté champagne et dévergondage de Paris, Moulin Rouge, tout ça au contraire. Et évidemment, beaucoup de gens ont collaboré, surtout qu'en 41-42, il fallait être un observateur politique assez fin pour s'apercevoir que les jours de l'Allemagne nazie étaient comptés. Tout le monde pensait que le Reich et la Nouvelle Europe, ça allait durer des dizaines et dizaines d'années. Donc on était parti pour une situation dont on s'accommodait. Et puis les Français, finalement, jusqu'à ce que la situation change radicalement, ont profité, dans la mesure du possible, un maximum de l'occupation.
Oui, ils râlaient un peu comme d'habitude, mais bon, c'était pas méchant. Et justement, à cette époque-là, on écoutait « J'attendrai » de Rina Ketty. On va faire une petite pause musicale. « J'attendrai ». J'attendrai de Rina Ketty et nous voilà de retour avec Romain Slocombe pour parler d'une partie qui est importante dans le livre, c'est la relation avec le monde actuel. J'en veux pour preuve, par exemple, ce que dit le procureur de la République de la Seine quand il dit les circonstances, en parlant de l'époque et des terroristes, les circonstances sont plus fortes en période exceptionnelle que les principes généraux du droit. C'est-à-dire que ce personnage prononce une phrase que l'on entend aujourd'hui pratiquement tous les jours.
Absolument. Ce n'était pas mon intention de base quand j'ai commencé à écrire le livre, mais au fur et à mesure que je travaillais sur cette période, et en particulier le printemps 1942, où les attentats sont de plus en plus nombreux et où il y a une réaction forcément de la police et de la justice, tout à coup, des éléments de vocabulaire, état d'urgence, garde à vue prolongée, juge d'instruction qui ferme les yeux, etc., toutes ces expressions sont ressurgissées des documents de l'époque et évidemment avait un son extrêmement désagréablement familier à nos oreilles de 2016. Et je me suis rendu compte que ce roman qui était parti pour être, la chronique de la vie d'un policier sous l'occupation, devenait terriblement actuel et mettait en lumière à la fois les similitudes et les différences. C'est-à-dire qu'évidemment, les terroristes actuels ne sont pas de courageux résistants qui essayent de libérer la France. C'est au contraire des représentants de la barbarie, d'un nouveau fascisme. Mais et puis ils essayent de tuer le plus de gens possible. Alors qu'évidemment, les terroristes de 1942, ce sont en fait, ils sont encore très minoritaires d'ailleurs, mais ce sont et c'est ça que j'ai découvert dans les archives de la préfecture de police, ce sont pour la plupart de très 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 jeunes gens, entre 17 et 23 ans, souvent juifs et très très souvent polonais ou étrangers. Donc ce sont ceux-là qui vont se retrouver face aux brigades spéciales et à une répression extrêmement violente, mais ils ne sont pas populaires. C'est-à-dire qu'on pourrait penser, super, les Français se disent enfin de l'action contre les nazis. Pas du tout, les Parisiens sont terrorisés par les terroristes. Pas du tout parce qu'ils ont vraiment peur d'eux-mêmes de sauter sur une bombe, c'était pas tellement ça. Les bombes visaient plutôt les hôtels fréquentés par les soldats allemands. Mais simplement, c'est que ces attentats généraient une répression absolument terrible au niveau des fusillades d'otages. C'est-à-dire que beaucoup de gens avaient des amis, des parents, etc., qui étaient dans les prisons ou les camps de concentration français, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avions beaucoup de camps de concentration.
Ou de rétention.
Oui, mais ça s'appelait les camps de concentration. Hein. C'était
oui.
Le terme était, et voilà, et c'était l'internement administratif, et on concentrait les gens dans des camps de concentration.
Même pour femmes et enfants, oui.
Oui, évidemment, il y a eu des scènes absolument terribles, d'ailleurs, je crois que c'était à Beaune-la-Rolande, quand les enfants et les mères ont été séparés, et que les gendarmes ont mis les mitrailleuses en batterie pour séparer les enfants et les femmes. Et tout à coup, il y a eu un silence, et ces enfants sont partis, sachant qu'ils ne reverraient plus jamais leurs parents. Quoi qu'il en soit, les gens ont peur, les terroristes ne sont pas populaires, et en plus, les bombardements ne frappent pas partout, mais la banlieue parisienne est extrêmement frappée par les bombardements des Anglais, qui visent évidemment plutôt les usines Renault ou la firme Renault fabrique des tanks pour la Wehrmacht, mais évidemment les bombes ratent leurs objectifs, tombent sur la banlieue, autour des usines il y a surtout des maisons ouvrières, et il y a eu des centaines et des centaines de morts à chaque bombardement. Et ça évidemment après la guerre, bon, ça a été un peu oblitéré, et puis bon, la population savait que c'était finalement pour la libération finale du territoire, et donc les Anglais n'étaient pas détestés, mais les gens avaient très très peur parce qu'ils risquaient d'y passer, et puis quelquefois les bombes tombaient carrément sur Paris, c'est arrivé, il y a eu en particulier sur un champ de course, là il y a eu beaucoup de morts à cause de ça, mais c'était vers la fin de la guerre.
Il y a une autre idée, il y a une autre idée qui était intéressante à l'époque d'un flic, parce que les Juifs avaient perdu leur nationalité française, évidemment, avec les lois sur le statut juif. Il y a un flic qui a une idée géniale, c'est de dénationaliser les rouges. Ça rappelle l'idée de déchéance de nationalité un petit peu.
Voilà, tout à fait. Là, on est vraiment en pleine actualité également. Pétain a commencé à dénationaliser beaucoup de gens qui avaient été nationalisés. C'est-à-dire que les nationalisations postérieures à 1927, si je ne me trompe, étaient remises en cause, évidemment des familles entières se retrouvaient tout à coup, n'étaient plus français, évidemment c'était encore plus facile pour les déporter, parce que ça devenait la plupart étaient des juifs, évidemment, c'est surtout les juifs qu'on a dénationalisés, et donc au lieu d'être juifs français, ils devenaient juifs étrangers ou apatrides, etc. Et donc là, évidemment, il était extrêmement facile de les mettre à Drancy, puis sur les trains qui allaient vers Auschwitz. Et la police française a joué un rôle énorme, parce que il y avait de moins en moins d'Allemands à Paris, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que ce n'est qu'au tout début de l'occupation qu'il y en a eu beaucoup, mais après, les Allemands, ils avaient fort à faire du côté de l'Est, avec la guerre contre l'Union soviétique, et donc, les Allemands, et c'est ça qui est justement typique de cette année 42, c'est le moment où ils vont remettre les pouvoirs de police à la police française, et la police française, justement, pour par aussi par principe de nationaliste, pour pouvoir avoir le droit d'exercer et que l'occupant finalement leur fasse confiance, eh ben, il fallait faire du zèle pour prouver qu'eux aussi, les Français, étaient capables de faire de la répression, de coffrer les terroristes et d'aider à déporter les Juifs en grande quantité.
C'est aussi l'extrême droite qui incarnait la résistance.
Il y a eu des cas, oui, quand on lit par exemple la biographie de Daniel Cordier, qui était le secrétaire de Jean Moulin, qui s'appelle alias Caracalla, il fait partie justement de ces jeunes maurrassiens de l'Action française, etc., et pour qui c'était, contrairement à Maurras lui-même qui a collaboré, pour qui c'était une évidence lors de la défaite de juin 40 qu'il fallait continuer à résister, que l'Empire français existait encore, les colonies, tout ça. Et beaucoup de ces jeunes gens de droite, effectivement, se sont retrouvés à Londres où ils se sont enrôlés sous les ordres du général de Gaulle.
Il y a des scènes où Léon, avant la guerre, se retrouve dans l'exode.
Oui.
Et moi, je vois ce que je vois à la télé, c'est-à-dire les gens qui sont réfugiés, qui sont en train de... avec des corps partout et des gens qui dorment dans les parcs.
Oui, et ces gens-là, c'est nous, c'est les Français.
C'est les Français, Parisiens. C'est ça. Ce sont les grands-parents de ceux qui veulent absolument refuser les Syriens aujourd'hui en disant que ce sont des lâches qui fuient la guerre.
Oui, effectivement, c'est un jugement qui fait un peu mal quand on y pense, et quand on pense qu'on a vécu aussi ça, que la France, tout à coup, il y a eu des millions de réfugiés sur les routes de France, et d'ailleurs Simenon montre ça très bien dans Le Train, et puis Rebatté dans les décombres, même si c'est un auteur de droite peu sympathique parce qu'il était pour la qualité collaborateur, mais ces pages sont absolument extraordinaires sur l'exode. Et je suis tombé justement en faisant des recherches sur l'histoire de ce bombardement absolument terrifiant qui a eu lieu sur la ville d'Étampes en juin 1940. Hein.
Et alors, juste pour moi, là, une question, là, on ne le dit à personne, est-ce qu'il y aura une suite ?
Oui, je pense, parce que en fait, mon idée de départ, c'était de montrer ce que donnait, et ça aussi c'est actuel, l'effondrement d'un pays, c'est-à-dire que quand une société s'effondre, il y a une sorte de vide qui se crée, et ce vide est automatiquement rempli par les gens les plus brutaux, et en l'occurrence, ce sont les gangsters français, puisque je parle de la Gestapo française de la rue Lauriston, et tout à coup, les valeurs sont inversées.
Oui, c'est le crime qui fait la police.
Voilà, tout à fait. Et mon idée, c'est de suivre justement ce personnage de Léon Sadorski, ce policier français, jusqu'à la libération.
Eh ben, merci énormément, Romain Slocon. Mais je rappelle, le titre de votre ouvrage, c'est l'affaire Léon Sadorski, qui est paru dans la collection La Bête Noire chez Robert Laffont. Merci beaucoup. On va se quitter avec Jacques Pils, qui chante Chaque chose à sa place, comme en 1941 dans les cabarets parisiens. Merci, bon après-midi.
Je sais, madame, que dans la vie, il faut un peu de fantaisie. Mais quoi qu'on fasse, il en faut juste ce qu'il faut. L'excès en tout est un défaut. Laissons chaque chose à sa place. Le blé dans la gerbe, le bleu dans l'azur, le grillon dans l'herbe, le trou dans le mur, l'œil du photographe dans la caméra, et vous, madame, dans mes bras. L'auto dans le garage, le beurre sur le pain, le lion dans la cage, le cœur sur la main, la joie sur le monde, le bonheur sur nous, et vous, madame, sur mes genoux. Allons, pas de gros yeux, je sais bien que j'ai beaucoup d'audace, mais tout marche bien mieux quand chaque chose et chacun demeure à sa place. Le chien dans la niche, le chat sur le toit, le cerf et la biche dans le fond des bois, le poisson dans l'onde, l'oiseau dans son nid, et vous, madame, dans mon lit.
Vous prétendez que je suis fou, pas plus mes bras que mes genoux, et vous trouvez très impoli que je vous propose mon lit? Bien, madame, vous êtes libre,
mais c'est vous délibérément qui rompez le bel équilibre. Je ne vous fais pas mes compliments.
Votre décision me désole, car vous sans moi et moi sans vous, c'est une perspective folle, aussi folle, oui ma parole, que si l'on voyait tout à coup le lion dans la gerbe, le pain dans l'azur, le poisson dans l'herbe, l'auto dans le mur, l'œil du photographe dans le pot de géranium, et moi madame dans les pommes. La joie dans le garage, le grillon dans le vin, le beurre dans la cage, le cœur sur le pain, la mer sur le monde, la folie sur nous, et mon amour dans les choux. Allons, allons, n'acceptez pas d'être responsable de ces drames. Croyons, dites-moi tout bas, que vous faites confiance à mon premier programme. Le chien dans la niche, le chat sur le toit, le cerf et la biche dans le fond des bois, le poisson dans l'onde, l'oiseau dans son nid, et vous madame dans mon lit, mais oui, et vous madame dans mon lit.
Après la guerre et l'occupation, en Pologne, vous dis-je, nous allons à Olsztyn, en Pologne, une petite ville qui n'a cessé au cours de son histoire d'être allemande, puis polonaise, et de recommencer le cirque. Un long passé de violence, aussi bien contre les Juifs, contre les Allemands, que contre les Polonais eux-mêmes, suivant les époques. C'est la rage de Zygmunt Milosevski qui vient de paraître chez Fleuve Édition. C'est à Olsztyn qu'officie désormais le procureur Théodore Zaki. Le procureur mène les enquêtes en Pologne et Zaki est un as. Il a déjà résolu beaucoup d'affaires. Et là, il est confronté à un squelette particulier puisqu'il est tout récent, alors qu'il apparaît comme s'il était en terre depuis 20 ans et qu'il est formé des os de plusieurs victimes. C'est bien embêtant. Il est préoccupé aussi bien par cette affaire que par sa vie personnelle qui ne va pas très fort. Et il ne fait pas attention à la plainte d'une pauvre femme qui craint les violences de son mari. Il ne va pas suivre l'enquête. La rage, c'est le début d'un engrenage terrible où le procureur va être touché dans ce qu'il a de plus cher, un jeu de manipulation dingue entre le ou les assassins et les enquêteurs. Un formidable polar ayant pour thème les violences faites aux femmes qui dépassent largement les frontières polonaises. Pour la musique, de belles références, dont Tracy Chapman, Baby, Can I Hold You?
Sorry, all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry. Forgive me, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me. Say, baby. I love you, but you can say, baby. be mine.
Alors pour finir l'été, rien de tel qu'un festival, un festival de polar, bien sûr, on est dans des polars et des notes. Et dans le sud, tant qu'à faire, il fait chaud. Et on va se faire un petit aller-retour dans le noir, puisque tel est le nom de ce salon qui se déroule du 29 septembre au 2 octobre à Pau. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous le responsable du festival, Jean-Christophe Tixier. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
Donc c'est donc, si j'ai bien compté, la 8e édition du festival ?
Oui, absolument. On est en train de préparer la 8e édition avec une thématique qui mettra le cap au sud.
Et sous le parrainage de Victor Del Arbol, qui a écrit un magnifique roman qui s'appelle La tristesse du samouraï.
Alors, La tristesse du samouraï est le premier qu'il a fait connaître en France. Et puis, le dernier, Toutes les vagues de l'océan, qui est tout aussi magistral et magnifique.
Et donc, j'ai annoncé du 29 septembre au 2 octobre, mais en allant sur votre site, je me suis aperçu que le festival s'étend sur une beaucoup plus longue période.
Oui, parce que on a fait le choix depuis quelques années de nouer des partenariats avec les salons qui sont en amont du nôtre, donc avec l'Île Noire, par exemple, et puis avec les salons qui après, Toulouse Polar du Sud, et puis Lire en Poche à Grédignan, ce qui permet de faire venir des auteurs et de mutualiser la venue et la prise des billets. Donc du coup, on conserve des auteurs qui viennent un peu en amont et puis qui restent aussi quelques jours après. Et puis alors, il y a un deuxième phénomène aussi, c'est que le salon a pris de l'ampleur et qu'on a de plus en plus de demandes pour des rencontres d'auteurs, que ce soit en médiathèque ou que ce soit au niveau des scolaires. Et là, ben, ça s'étend sur les 3, 4, 5 jours qui précèdent le salon.
Et c'est une association qui gère le festival ?
Alors, c'est une association qui porte le nom d'Un aller-retour dans le Loir et nous sommes tous bénévoles au sein de l'association pour organiser tout ça.
Et ce festival, il est payant ?
Alors, du tout. Il est entièrement gratuit pour les participants.
Donc, il faut y aller absolument.
Ben, il n'y a pas de doute.
Et donc, quel est le programme cette année ? Dites-nous un peu.
Alors, on a mis le cap au sud. Donc, on a invité 26 auteurs français et étrangers. Autour de la thématique du Sud, donc des auteurs du Sud ou des auteurs qui ont écrit sur le Sud. Et l'idée est de, bien sûr, proposer des dédicaces aux visiteurs, mais aussi toute une série de rencontres. Si le salon s'appelle Un aller-retour dans le Loir, c'est parce qu'à Pau, on a un funiculaire qui relie la ville haute et la ville basse et que on voulait mixer les publics et on demande et on donne une carte blanche à chaque auteur à l'intérieur du funiculaire. Donc, l'auteur va dans le funiculaire, il va rencontrer des gens qui viennent pour le voir, pour le rencontrer, mais aussi des gens qui descendent avec leur valise à la gare en bas, puisque c'est la gare qui est en bas. Et puis on en voit qui remontent avec leur valise aussi pour continuer à suivre la rencontre. Donc il y a tous les auteurs passent dans le funiculaire, et puis après on a un certain nombre de débats pour lesquels on a mis en place un système de traduction simultanée avec cabine et oreillette pour tout le monde, qui permet un véritable dialogue entre les auteurs. Donc cette année, on va faire, entre autres, discuter Dror Michani, auteur israélien, avec l'anglo-soudanais Parker Bilal. On va faire discuter aussi des auteurs comme Giancarlo De Cataldo, Karel Ferré, autour des problèmes, et Kyo Long, autour des problèmes des mafias. Enfin voilà, toute une série de rencontres tout au long du week-end.
Oui, il y a du très très beau monde. Hervé Lecor, avec Magnifique après la guerre, Jérôme Leroy, Pierre Poucheret, Marie Neuser, il n'y a que des grands là.
Oui, on peut le dire. Et on a la joie d'avoir un certain nombre d'ouvrages qui vont sortir au moment du salon, et entre autres le deuxième roman de Donald Repolock, qui nous avait ébloui avec Le Diable tout le temps, oui, en 2012, et là un nouveau roman qui va sortir le jour du salon, et Donald Repolock sera là, donc une mort qui en vaut la peine.
Il voilà, y a plusieurs prix qui sont décernés aussi, et il y a un prix qui m'intéresse particulièrement, parce que nous on a un roman en jeune et noir sur 404 Webzine, c'est un prix qui est dédié au polar pour la jeunesse et qui est décerné par des collégiens.
Alors tout à fait, donc ça c'est une opération qui existe déjà depuis 3 ans, qui s'appelle le prix Margot, donc on va annoncer là pendant le festival, la sélection des 4 romans qui seront en lice pour l'année scolaire 2016-2017, qui vont être lus dans une douzaine d'établissements scolaires par des classes de 5e. Et en mai, les élèves voteront, désigneront leur roman préféré et auront l'occasion, sur les mois de mai et juin, de rencontrer l'auteur lauréat. Donc là, on en est à la... on démarre la 3e édition de ce prix, et il y en a un autre pour lequel ce sera la 1ère édition, qui est le prix Marianne, un aller-retour dans le noir, puisque Marianne est le partenaire du festival, et là qui va désigner un roman noir. Donc il y a 6 romans en lice, le jury s'est réuni, et le résultat sera proclamé le jour de l'inauguration, donc le samedi 1er octobre.
8 ans, ça permet d'avoir un petit peu de recul. Est-ce que le public a évolué, le public du polar, sur cette période ?
Alors, nous, on se rend compte maintenant que c'est devenu un rendez-vous. Là où on est très, très satisfait, c'est que c'est un public qui est extrêmement curieux. Alors, on fait un gros travail en amont dans les médiathèques tout au long de l'année, avec des cafés polars, avec des présentations des livres et des présentations des auteurs. Ce que l'on voit, c'est que c'est pas le public du polar au sens strict du terme, qui est le thriller ou le roman d'enquête, mais que ça s'élargit aussi à beaucoup d'amateurs de littérature. On s'aperçoit que le côté idée que c'est un roman de gare est en train de complètement passer et que les frontières sont en train d'éclater.
Mais c'est vrai,
on trouve vraiment un public d'amoureux de livres, quoi, aujourd'hui.
C'est vrai que la frontière devient de plus en plus poreuse.
Oui, complètement. On le voit. Ouais.
Et ça draine beaucoup plus de monde ?
Alors, chaque année, nous, on a des progressions importantes sur les visiteurs. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, ce qu'on remarque, nous, c'est cette grande curiosité que peuvent avoir les visiteurs qui repartent avec des piles de livres sous le bras, prêts à aller découvrir les propositions qu'on leur fait.
Et il y a de la musique aussi. J'ai vu qu'il y avait même des concerts pendant ce festival.
Alors, on essaye d'offrir un certain nombre de clés d'entrée pour arriver jusqu'au livre. Donc, il y a des lectures, il y a des spectacles, il y a de la musique aussi, absolument.
Eh bien, je vous remercie beaucoup. Donc, allez à Pau, absolument, si vous êtes dans le coin. C'est du 29 septembre au 2 octobre. Et même, allez sur le site. Il y a d'autres activités qui sont proposées. On va se quitter en musique. J'ai vu qu'il y avait Carlos Zanon qui était invité chez
Alors,
vous.
Alors, Carlos Zanon est invité et on peut même, avec la musique, commencer un tout petit peu plus tôt que le salon, puisque une semaine avant, il va y avoir une lecture de Condor avec Bertrand Cantat qui est organisée une semaine en amont du festival.
Condor, qui est le dernier roman de Caril Ferret qui se passe
Absolument.
Au Chili et qui est magnifique.
Et Caril Ferret sera avec nous aussi.
Et de Carlos Zanon, bien sûr, j'ai pris Johnny Sanders. De son dernier roman, j'ai été Johnny Sanders, qui a été pris d'Achiel Hamet 2015, qui est paru chez Asphalt. C'est Blame It on Mom. Merci beaucoup, Jean-Christophe.
Merci à vous.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
On n'a pas vu le temps passer, dis donc, et c'est déjà fini. Bon, on ne va pas pleurer non plus. Nous nous retrouvons le mois prochain pour la suite de cette rentrée littéraire prolixe en romans de grande qualité et en frissons effrayants. Rendez-vous donc le mois prochain, vous avez de quoi lire et écouter en attendant. Soyez sages, on revient, bye bye.